Bonsoir. L'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC a 3 ans ce 24 février. Ce document engage 11 pays de la sous-région des Grands Lacs. La RDC avait souscrit à 6 engagements parmi lesquels la réforme du secteur de la sécurité, la promotion du développement économique et la réconciliation nationale. 3 ans après, quel bilan dressé de cet accord? Et pour en parler, je reçois Gérard Ntoumba. Bonsoir Monsieur Ntoumba. Gérard Ntoumba, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Voilà, je rappelle que vous êtes directeur de cabinet du coordonnateur national du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Professeur Tshibangu Kalala, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vous êtes président du parti politique Notre Beau Pays, parti de l'opposition et membre du Front Citoyen. Maître Nixon Kambale, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vous êtes membre du groupe de travail sur la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, également coordonnateur de l'ONG Centre pour la Gouvernance. Merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Vous le savez, le 24 février 2016, c'est le 3e anniversaire de l'accord cadre pour la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. Ce document engage 11 pays de la sous-région des Grands Lacs, lesquels avaient résolu devant les facilitateurs des Nations Unies et de l'Union africaine du retour de la paix dans l'Est de la RDC dans toute la région. Mimi Ngumba Mulongo présente les grandes lignes de ce document.
L'accord cadre était signé par la RDC, l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Rwanda, le Congo et la Tanzanie, sans oublier l'Ouganda, l'Angola, le Burundi, la Centrafrique et la Zambie. En effet, 6 engagements étaient pris par la RDC. C'est entre autres la réforme du secteur de la sécurité, la consolidation de l'autorité de l'État, ainsi que la promotion du développement économique et celle des objectifs de réconciliation nationale. Les États de la région, eux, s'étaient engagés à ne pas s'ingérer dans les affaires internes des États voisins, à ne pas tolérer ni assister les groupes armés, mais aussi à faciliter l'administration de la justice dans la région, pour ne citer que ces 3 résolutions. Quant à la communauté internationale, elle était appelée à un soutien pour la stabilité à long terme de la RDC, sans oublier la revitalisation de la communauté économique des pays des Grands Lacs.
Merci Mimi Ngumba Mulongo. À propos justement de cet accord, le parti politique Mouvement Lumumbis Progressiste appelle le secrétaire général des Nations Unies à s'impliquer pour l'application stricte et effective de ce document. Dans un mémorandum adressé à Ban Ki-moon et rendu public ce mercredi, le président du MLP estime que les résolutions du 24 février 2013 souffrent de non-application, d'où son appel en vue de garantir un bon processus électoral et l'instauration d'une paix durable à l'est de la RDC. Le député national Franck Diongo est au micro de
Cette interpellation, c'est au niveau de l'effectivité de cet accord, l'application de cet accord, parce que 11 pays avaient signé cet accord de paix sous l'égide des Nations Unies. Et là, il y a eu des engagements qui ont été pris pour l'instauration de la paix dans la région du Grand Lac. Que reste encore de cet accord alors que le Congo est déjà dans une année électorale? Vous trouverez que dans cet accord, on a parlé du dialogue. Qu'est-ce qui est devenu ce dialogue dans l'accord d'Addis Abeba? C'est une interpellation claire au secrétaire général des Nations Unies parce qu'on n'a pas senti sur le terrain les actions menées dans le cadre de cet accord, ni par les États, encore moins par les Nations Unies.
Gérard Ntoumba, vous êtes directeur de cabinet du coordonnateur national du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. 3 ans après, quel est votre bilan par rapport à l'application de cet accord?
Okay, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je commence par saluer mes co-débatteurs de ce soir. Avant toute chose, je voudrais corriger quelque chose que vous-même vous avez dit en introduisant cette émission et qui a été reprise par votre collègue qui a énoncé les quelques points d'engagement de l'accord. Donc cet accord au départ effectivement était signé par 11 pays, mais par la suite, une année après, a été rejoint par 2 autres pays. Donc il s'agit du Kenya et du Soudan. Donc ce que nous disons aujourd'hui, que l'accord cadre d'Addis Abeba engage 13 pays de la région et non plus 11 comme au départ.
Ceci étant dit, quel est le bilan que vous dressez 3 ans après?
Alors, le bilan, il y a à boire et à manger. Hein. C'est comme toujours, c'est l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide, ça dépend.
Et vous buvez quoi, vous mangez quoi?
Il y a des choses qui ont été faites, effectivement. Beaucoup reste encore à faire, surtout au niveau régional. Au niveau interne, au niveau des engagements nationaux que la structure où je suis chargé du monitoring, on a constaté que le gouvernement de la RDC faisait un effort pour essayer de répondre à ces engagements. Comme il a été rappelé, il y en a 6. Ces engagements consistent essentiellement en des réformes qui devaient être entreprises par le gouvernement congolais. Alors, qui dit réforme, comme vous le savez, c'est des processus parfois assez longs, qui consistent d'abord à concevoir, à penser la réforme, à la mettre sur papier, à élaborer des indicateurs pour pouvoir après mesurer si toutes les actions qui ont été identifiées dans la mise en œuvre de la réforme sont effectivement réalisées. Donc c'est un processus, comme je dis, il y a des choses qui sont faites, mais comme il y a beaucoup à faire, peut-être que la plupart des compatriotes qui entendent parler de l'accord cadre disent qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites, mais nous qui suivons ça en interne, nous pouvons dire que du point de vue national, il y a des activités qui ont été faites, il y a un séminaire que nous avions organisé dernièrement pour identifier les interventions prioritaires pour l'opérationnalisation des engagements nationaux de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le document existe, nous avons travaillé ensemble avec toutes les structures de l'État, toute l'expertise du gouvernement.
Monsieur Gérard,
et d'aligner en regard des actions qui ont été ainsi identifiées, les ressources nécessaires qui devaient figurer dans le budget 2016.
Monsieur Gérard Toumba.
Oui.
Alors, peut-être pour aider les auditeurs et internautes qui nous suivent, il y a 6 points auxquels la RDC a souscrit en termes d'engagement. On va essayer de les prendre point par point et vous nous direz à quel niveau on est. Le premier engagement, il s'agissait de continuer et d'approfondir la réforme du secteur de la sécurité, en particulier en ce qui concerne l'armée et la police. Vous avez dit que c'était un processus, mais à ce jour, concrètement, où est-ce qu'on en est? À quel niveau on en est?
Écoutez, sur une échelle de 5, nous pouvons dire que il y a 2. Nous pouvons mettre 2 sur 5. Je m'explique. Les réformes consistent aussi essentiellement, comme je le disais, en des textes, les textes juridiques. Par exemple, en ce qui concerne l'armée, tout le cadre législatif est pratiquement mis en place, les structures qui devaient être mises en place le sont, mais il y a un document essentiel qui manque pour concrétiser la réforme de l'armée. C'est la loi sur la programmation militaire. Donc, c'est cette loi qui est la base de la réforme. Mais il y a des choses qui ont été faites, notamment sur le rétablissement des écoles de formation, la formation des brigades à réaction rapide, les brigades qui sont appelées à terme à relever la brigade mixte de la MONUSCO. En ce qui concerne la police nationale congolaise, c'est là où les choses sont, on peut considérer que la réforme est la plus avancée parce qu'elle a été initiée depuis l'année 2005 et on espère l'amener à terme à l'année 2025.
Monsieur Gérard Toumba, voilà. Prenons le deuxième engagement, consolider l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la République démocratique du Congo, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins. Sur une échelle de 5 que vous avez vous-même établie, vous donnez combien, brièvement, je vous en prie?
Alors, je Je voudrais pour qu'on fasse une bonne émission, hein, dire que il faudrait que les auditeurs qui nous suivent, et même pour permettre à mes co-débatteurs de bien appréhender la chose, nous, au mécanisme national de suivi, nous avons élaboré des critères et indicateurs qui nous permettent justement de dire que ça a été fait ou ça n'a pas été fait. Il y a tellement d'indicateurs que sur tous les indicateurs que nous avons développés, nous avons retenu 90 ou 92 actions pour l'année 2016. Parmi ces 90 actions, l'année 2016 vient de commencer, le budget de l'État venait d'être promulgué, hein, donc nous sommes très focus sur ces actions. Il y a tellement à faire, je vous dis par exemple,
Monsieur Gérard Ntumba,
de la consolidation de l'autorité de l'État.
Oui. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Professeur Tshibangu Kalala, vous êtes président du parti politique Notre Beau Pays, parti de l'opposition et membre du Front Citoyen. Vous avez suivi Gérard Ntumba, s'il y a à boire et à manger par rapport au bilan de l'accord cadre d'Addis Abeba. Beaucoup reste à faire. Il y a des engagements qui ont été concrétisés, mais si on le comprend, le bilan est assez mitigé. Quelle est votre analyse?
Merci beaucoup Alain Hirong. Je tiens d'abord à vous remercier vous-même pour m'avoir invité à cette émission et je salue M. Ntumba et Maître Kambale qui est à mes côtés, qui sont mes amis de ce soir. Alain Hirong, vous avez suivi, nous tous, nous avons suivi l'intervention de M. Gérard Ntumba qui est là, chargé de suivre au jour le jour la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, en particulier concernant les engagements de la RDC. Moi, je trouve que Gérard Ntumba est un homme honnête. Voilà. Il nous dit très clairement qu'il y a à boire et à manger dans cette affaire. Il nous dit. Mais il nous a pas dit qu'est-ce qu'il est en mesure de boire et qu'est-ce qu'il est en mesure de manger lui-même. Mais il y a à boire et à manger. Il est honnête, juste pour la première application, il dit, mais il peut donner 2 sur 5. Bon, quand, moi je suis un professeur, quand je donne 2 sur 5 à un étudiant, c'est qu'il a échoué, c'est un échec. Mais enfin, qu'est-ce qu'il faut dire ce soir à Alain Hirong? Il y a tout de même des points positifs dans cet accord. Je vais commencer par les engagements au niveau régional et au niveau international très rapidement avant de chuter sur la situation de la RDC. Je note que sur le plan de la région, les États s'étaient engagés à ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures des États voisins. Bon, aujourd'hui, je constate qu'il y a tout de même un progrès. Le Rwanda qui avait appliquer une certaine politique à un moment donné en s'immisçant nos affaires, je crois que cette question a été relativement résolue. On a vaincu le M23. La situation a commencé à évoluer dans le bon sens après la signature de cet accord. C'est vrai qu'il y a une situation au Burundi où le Burundi attaque aujourd'hui le Rwanda en disant que le Rwanda s'immisce dans les affaires du Burundi. Mais mettons ça de côté.
Et même la RDC.
Son
représentant à l'ONU a fait la même demande.
Avec déclaration, et même les États-Unis ont critiqué le Rwanda en disant bon, ce qui se passe au Burundi, le Rwanda est tenté d'envenimer la situation. Donc ce n'est pas bon, c'est une violation de l'accord cadre dans le chef du Rwanda. Mais mettons ça de côté. En ce qui concerne le fait d'héberger des groupes armés sur les territoires d'un État pour attaquer un autre État, je crois que aujourd'hui, dans nos relations avec le Rwanda, avec le Burundi, les voisins, la situation s'est améliorée après la signature de cet accord. Je peux me limiter à ce point-là. Maintenant, pour la communauté internationale, je trouve que la communauté internationale a fait quelque chose de très positif pour notre pays. Dans l'application de cet accord, on a renforcé les pouvoirs de la MONUSCO, donc son mandat, et nous avons aujourd'hui une brigade d'intervention. Et cette brigade a été déployée sur nos territoires après l'accord d'Addis Abeba, parce qu'il y a eu une résolution qui a été prise par le Conseil de sécurité 2098, après l'accord d'Addis Abeba, pour renforcer le mandat de la MONUSCO, et c'est pour la première fois, ça il faut le noter, dans l'histoire des Nations Unies, qu'on décide à partir de New York de créer une armée une branche armée des Nations Unies pour intervenir dans un pays, utiliser la force. Donc là, il y a eu un engagement très concret de la communauté internationale pour pouvoir résoudre, régler le problème de l'instabilité, de violence qui est dans le CC. Bon, il y a quand même quelques progrès de ce
côté-là. Alors sur le plan national, professeur,
maintenant, sur le plan national, et c'est le point le plus important, sur le plan national, notre pays a pris des engagements. Le président de la République, Joseph Kabila, a signé ce document au nom de la RDC, a pris donc des engagements au nom de l'État congolais, au nom du peuple congolais. Aujourd'hui, 3 ans après, on peut faire le point pour savoir est-ce que le gouvernement congolais a respecté ses engagements. Le premier point, la question de la réforme du secteur de l'armée, de la police. Gérard Ntumba nous dit que, lui qui suit la situation mieux que nous dit que c'est 2/5, donc c'est un échec. Beaucoup de choses, il y a fait quelque chose, mais beaucoup de choses restent encore à faire. Ça signifie qu'on est loin du compte. Sur le deuxième point, l'autorité de l'État, à l'est de la RDC en particulier, nous avons des gros problèmes aujourd'hui sur le déploiement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. C'est vrai qu'il ne faut pas tout noircir, il ne faut pas dire que vraiment c'est la catastrophe, des choses, mais nous avons un véritable problème. Il y a certains territoires où, franchement, l'autorité de l'État est encore très faible. Sur l'ensemble du territoire, le plus grand problème, l'État fonctionne. En fait, l'autorité est là, même s'il est très faible, mais tout de même, il n'y a pas de troubles, il n'y a pas de violences, ça va.
La décentralisation.
La décentralisation. Troisième engagement. Et là, c'est une catastrophe. Bien. Aujourd'hui, est-ce que notre pays est administré correctement? Au moment où je vous parle, Alain Irung, nous avons des commissaires spéciaux qui sont dans 21 provinces. Une structure totalement inconstitutionnelle. Si vous lisez la Constitution, vous lisez la loi sur la libre administration des provinces, mais nulle part, on peut voir que le gouvernement peut nommer ses propres agents, les envoyer en province pour aller gouverner les provinces. C'est une violation flagrante.
Alors, professeur, avant de donner la parole à Maître Kambalé, quel est l'élément qu'on peut considérer comme positif sur le plan national, en un mot?
Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on peut considérer comme élément positif? Je peux parler, par exemple, de problèmes de... sur le plan de gestion financière ou gestion économique. Le point positif qu'on peut trouver dans cette affaire, c'est par exemple la maîtrise de la monnaie. Cette fois-ci, une fois, nous avons une monnaie nationale. Le gouvernement, avec la Banque centrale, ont réussi quand même à faire en sorte que nous puissions avoir une monnaie nationale qui se défend.
Merci.
Ça, c'est un point positif.
Merci, professeur.
Mais le reste, je vais terminer par là.
Merci, professeur Soufré, que je vous arrête. Professeur Soufré, que je vous arrête. Maître Nixon Kambalé, vous êtes membre du groupe de travail sur la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, également coordonnateur de l'ONG Centre pour la gouvernance. Vous avez suivi tour à tour Monsieur Gérard Ntumba et professeur Chibangu. Quelle est votre analyse à vous, 3 ans après, par rapport à l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba?
Ok, merci Alain. Je salue le prof, aussi je salue le DICAB Gérard. Quel est notre point de vue? Je vous souviendrai que il faut dire que 3 ans après, c'est quand même une période d'évaluation que tout le monde peut faire. Et comme le prof a dit, je salue évidemment la sincérité de Gérard Ntumba d'avoir donner des indicateurs, une cote quant aux réalisations ou aux engagements de la RDC. Mais je note ici que nous, comme groupe de travail, lorsque l'accord a fait une année, nous avions fait notre rapport. Et de cet rapport, nous nous interrogeons évidemment sur l'importance de cet accord, mais aussi sur les crédits ou sur les enfantages de cet accord. Et quelques temps après, en septembre de la même année, donc de l'année 2014, nous nous interrogeons déjà sur l'avenir de l'accord cadre. Parce que nous avions constaté qu'il y avait déjà des problèmes qui se posaient.
Alors, avant d'aborder l'avenir, maître, le bilan...
Non, évidemment, je souhaite d'aller. Et dans le troisième rapport, nous disions finalement que nous nous trouvions dans un cas de figure, de rêve de sourd-muet.
C'est-à-dire,
pourquoi un rêve de sourd-muet? Parce que l'accord cadre, comme il est titulé, c'est l'accord cadre pour la paix, la sécurité. Mais lorsque nous analysons les choses, et lorsque, dans les concrets, nous nous rendons compte que la paix n'est pas revenue, notamment dans la partie orientale. La preuve en est la dégradation brutale de la situation sécuritaire à Beni, au sud de Lubero, dans le nord Katanga, dans les Désouélé. Personne ne pourra pas me dire aujourd'hui qu'il y a la paix. La sécurité n'en parle même pas. Donc, sur ce point-là, nous dire aujourd'hui qu'il y a des avancées, on s'interroge. Voilà pourquoi nous avons dit que c'est un rêve de sourd-muet. Deuxième chose, lorsqu'on parle de la réforme du secteur de sécurité, vous savez, sur cette question, on a tendance à vouloir commencer la réforme du secteur de sécurité à partir de cet accord. Alors que la réforme du secteur de sécurité a été l'un des fondamentaux de la refondation de la République après la Grande Guerre. Souvenez-vous de la résolution sur la mise en place d'une armée structurée intégrée. À quel niveau sommes-nous aujourd'hui? Nous nous trouvons avec des éléments qui continuent à se comporter selon leur origine, comme si on était sous le régime E plus 4. Et ça pose problème.
Et donc, on n'est pas très avancé.
On n'est pas très avancé. Sur le plan de texte, oui, on dit, il y a un texte, oui. Le texte est résolu, mais l'applicabilité pose problème. Même la nouvelle loi, il faut vous dire, cette loi a été promulguée en 2011. Il fallait combien d'États pour qu'on mette à place les structures organiques de l'armée. Ça a pris beaucoup de temps. Et même ces structures mettent à place. Aujourd'hui, on note évidemment avec les Dikab Toumba que la loi de programmation n'est même pas là. Même pour le cas de la police, la loi de programmation a été promulguée. C'est moins le décompte qu'on allait prendre pour mettre dans le budget, on ne le met pas. Alors on voit quoi? Il n'y a pas de volonté claire, structurée pour qu'on mène la réforme. Ça, c'est un problème.
Là, c'est sur la sécurité et au niveau de la décentralisation.
J'en arrive. Allez. Le prof a parlé de la catastrophe. C'est vraiment un problème. Vous savez, la décentralisation, d'abord, il faut dire que en mettant à place l'organisation, le régionalisme constitutionnel, les constituants congolais, ou ceux-là qui ont eu à négocier, qui ont eu à signer l'accord global et inclusif, ont résolu un des plus grands problèmes qui menaçait depuis l'indépendance de la RDC. C'était le débat entre les nationalistes et les fédéralistes. Mais avec cette constitution, on a pu concilier les deux en disant ok, il y aura un régionalisme. Et en matière de régionalisme, on prévoit les structures politiques au niveau de la région. Et à ce moment-là, c'est ce que vous appelez le gouvernement provincial, assemblée provinciale, qui sont des types des institutions politiques.
Alors en termes de bilan, pour qu'on ne se perde pas dans...
Oui, il n'y a pas de projet, j'en arrive, allez. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Lorsque ces institutions ont été mises en place, c'est en 2007. En 2007, elles ont été mises en place. En principe, 5 ans après, on devait renouveler. Mais ça n'a pas été. Ce qui fait que on est passé à côté. Mais pendant qu'on devait maintenant, on essaie de se battre, on déchoit ces institutions constitutionnellement établies pour nous amener des institutions hybrides. Hein? On ne sait même pas la nature de ces structures-là. Et on se demande, finalement,
le gouvernement s'inscrit à quoi alors que... alors que la question est claire, il y a des attributions Merci. Propres aux provinces.
Merci. Et donc, vous cautionnez le bilan catastrophique également sur le plan de la décentralisation. Monsieur Gérard Ntoumba, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de l'Itouri.
Serge Nyongo de Bounia, à province de l'Itouri. Le bilan de l'accord cadre d'Addis Abeba reste sombre, un accord hypothétique et qui ne relève pas jusqu'à l'heure de sa teneur telle que conclue au départ par le pays signateur. Les engagements pris par la RDC ont valablement accouché d'une souris. Les conséquences de la sécurité restent fâcheuses. C'est le sang des Congolais qui ne cesse d'écouler au jour le jour. Les violations des droits de l'homme restent toujours persistantes. Les conflits de plus en plus récurrents. Le carnage en répétition des groupes armés qui naissent au quotidien. Sous une décentralisation prématurée, l'économie reste décroissante, la démocratie non effective et beaucoup d'autres situations que je ne saurais dire. Je peux dire que l'État congolais s'était engagé dans une affaire dans laquelle les tenants et les aboutissants étaient éventuellement méconnus par lui-même car nous vivons réellement un chaos.
Gérard Ntoumba, j'ajoute cette réaction de Patrick Kanyinda de Lubumbashi qui dit « Un texte de plus pour rien, le problème dans les Grands Lacs, c'est qu'il y a un complot international qui vise à empêcher ces États d'exercer leur souveraineté dans certaines zones de leur territoire, de sorte que certaines multinationales profitent anarchiquement de ressources naturelles dans ces pays. » Essayez de ramasser tout ça, qu'est-ce que vous y répondez?
Ok, je comprends très bien les réactions des compatriotes qui vivent certaines atrocités au quotidien, mais ce que je peux leur dire pour les apaiser, parce que moi je suis convaincu que le texte qui a été signé à Addis Abeba le 24 février 2013, c'est quand même un texte réfléchi, parce que si jamais vous regardez la façon dont les engagements sont libellés, je reviens à ce que Maître Kambalé disait. Par exemple, pour la réforme de l'armée, on reconnaît qu'il y a des choses qui étaient déjà faites. Il y a des choses qui avaient commencé parce qu'on demande de continuer et d'approfondir. Donc, continuer, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a des choses qui ont été faites. Je connais les attentes de mes compatriotes, surtout dans la partie orientale, qui veulent que les atrocités s'arrêtent le jour. Mais je voudrais aussi leur dire que nous sommes dans un processus. On avait laissé la situation pourrir à un tel point. Que c'est vrai, ce qui est fait, s'il n'est pas encore perceptible aujourd'hui dans toutes les contrées, mais il y a quand même des situations où on peut dire que la situation a évolué. Les gens qui vivent autour du parc de Biruka, par exemple, là où il y avait le M23 avec de l'atrocité, ceux-là aujourd'hui vivent dans une certaine quiétude relative, bien qu'il y ait encore des échappées du côté de Routchourou ou Béro. Mais dans l'ensemble, on peut dire que les zones environnantes du parc de Biruka sont plus ou moins sécurisées.
Monsieur Ntoumba,
C'est pas un texte de plus. La différence de ce texte avec les autres textes, c'est qu'au moins pour une fois, il a été demandé au gouvernement de la République démocratique du Congo de mettre sur place son propre mécanisme qui permet de monitorer. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est un peu ça qui est la différence avec les autres textes et les autres accords qui avaient été signés avant. Nous sommes engagés dans un processus. C'est pas un processus d'une année. La mise en œuvre de l'accord cadre, c'est pas quelque chose qui peut se mesurer sur une année, deux ans. C'est quelque chose qui pourra, je suis convaincu, porter des fruits à moyen et long terme.
Alors, M. Ntoumba, parmi les accords auxquels la RDC a souscrit, il y a également le point que je peux appeler le point 6, qui parle de promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation. J'aimerais vous entendre à ce sujet.
Alors, cet engagement, la ligne numéro 6, que d'aucuns parfois à tort disent, il a été demandé d'organiser un dialogue suivant l'accord cadre. Nous comprenons ça de cette façon. Les objectifs de réconciliation, tolérance et démocratisation, pour promouvoir, c'est-à-dire permettre en sorte que les objectifs de réconciliation soient atteints. Comment voulez-vous qu'on atteigne une réconciliation sans pour autant permettre aux gens de se parler? Je crois que même la conférence nationale souveraine que nous tous nous souvenons d'avoir vécu dans ce pays. La faiblesse de cette conférence, c'est que ça s'était terminé en queue de poisson. Il a été érigé un monument de réconciliation.
Merci.
Et la réconciliation ne s'était pas faite parce que je crois que dans les cœurs, les gens n'étaient pas sincères. Il y avait beaucoup d'hypocrisie.
Merci.
Et tout ça. Donc voilà, cet objectif, c'est ce que nous faisons. Nous essayons de faire un effort. C'est quelque chose qui doit commencer à la base.
Merci. Merci, M. Ntumba. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Professeur Tshibangu, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud-Kivu.
Bien fait, Moussindi de Bukavu, Sud-Kivu. La RDC n'a pas connu des avancées significatives quant à ce qui concerne la mise en application des accords d'Addis Abeba. En ce qui concerne la réconciliation nationale, on constate que plusieurs prisonniers politiques qui devraient bénéficier de l'amnistie sont toujours en prison sans aucune raison valable. Les conflits entre communautés persistent sans aucune initiative nationale visant à les résoudre.
Professeur Tshibangu, l'aspect réconciliation nationale.
Oui, mais notre auditeur a parfaitement raison, Ayung. Mais aujourd'hui, la réconciliation nationale qui devait aboutir à terme à la cohésion nationale, à souder le peuple congolais, renforcer l'unité nationale, tout cela est mis à mal aujourd'hui. Vous avez suivi il y a quelques jours, les forces de l'opposition, la société civile ont demandé, la journée ville montre sur l'ensemble du pays. Aujourd'hui, le peuple congolais n'est pas uni. Il y a un problème de réconciliation nationale qui se pose. Et donc, on a organisé, le président de la République a convoqué les concertations nationales en 2013, justement pour renforcer la cohésion nationale. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de cohésion nationale, nous sommes dans la confrontation nationale. Donc, cet objectif de réconciliation nationale de manière à rassembler le peuple congolais, cet objectif n'est pas atteint. Aujourd'hui, nous sommes dans la confrontation. Les élections ne sont pas organisées. Nous parlons de la démocratisation. Aujourd'hui, il y a un grand problème dans le pays où le processus électoral est en panne. On se pose la question aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui va arriver à notre pays au mois de décembre prochain s'il n'y a pas un nouveau président de la République élu. Nous sommes dans la confrontation. Vous avez dit que je suis membre du Front Citoyen 2016. Mais qu'est-ce que le Front Citoyen 2016 demande? Le respect de la Constitution et des lois de la République, l'alternance démocratique, parce que tout cela est mis en danger. Nous suivons tous les jours les rapports des organisations de défense des droits de l'homme sur les arrestations arbitraires, sur la réduction de l'espace de liberté de notre pays. La MONUSCO en a parlé il y a quelques jours. Aujourd'hui, la question de la tolérance politique. Monsieur Ariyung, on ne va pas construire un état de droit dans notre pays, une démocratie rayonnante dans notre pays, s'il n'y a pas de tolérance politique. Vous vous rappelez ce qui vient de se passer à peine quelques jours, l'arrestation du député Fayoulou, n'est-ce pas, comme un vulgaire individu, arrêté alors qu'il est député élu.
Donc, mais professeur,
absence de tolérance politique.
Professeur, Monsieur Gérard Ntumba a tout à l'heure dit que la réconciliation ne pouvait avoir lieu sans un dialogue au préalable.
Oui, mais je veux bien, mais on a été aux concertations nationales pour justement arriver à la cohésion. Aujourd'hui, qui parle encore des résultats des concertations nationales? Qu'est-ce que c'est devenu? Bon, j'ai suivi aujourd'hui le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, est arrivé ici chez nous. Il a vu le président de la République, les forces de l'opposition et la majorité. Il dit qu'il faut qu'on aille discuter. Mais, c'est bien. Mais Ban Ki-moon était ici il y a à peine 4 ou 5 ans. Il est allé au palais du peuple pour s'adresser directement à la représentation nationale. Le Parlement, c'est le cœur battant de la démocratie. Il était là. Il a encouragé les Congolais. Le président français Sarkozy, Nicolas Sarkozy, est venu, il nous a encouragés, vous êtes sur la bonne voie. Votre pays fait partie du cercle restreint des États démocratiques du monde. Mais Ban Ki-moon arrive aujourd'hui, il ne va pas au palais du peuple, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais s'il demande qu'on puisse aller au dialogue, c'est qu'il n'y a pas de réconciliation nationale. Comment on est arrivé là?
Et sur une échelle de 5, professeur, vous donnez combien par rapport à la réconciliation nationale?
Mais aujourd'hui, c'est 0 sur 5.
Merci.
Parce que nous sommes dans la confrontation cette année-ci.
Merci. Maître Kambale, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Maître Christian Biona, avocat au barreau de Kisangani. Les bilans des mers mitigés, les états de la sous-région des Grands Lacs doivent fournir des efforts considérables pour améliorer le niveau de la mise en œuvre de l'applicabilité de cet accord. Que ce soit les Rwanda, la RDC, les Burundi et l'Ouganda, nous avions remarqué aucune volonté de coopération pour la sécurité commune et l'émergence de la démocratie, y compris le respect des libertés publiques.
J'ajoute, Maître Kambalé, cette réaction de Mouindo Luc Kambéré de Beni qui dit « Cela RDC manifeste la volonté de respecter cet accord, c'est évidemment avec raison, étant donné qu'elle est la principale victime des conflits dans la région des Grands Lacs. Malheureusement, les soi-disant signataires sont ceux-là cités agresseurs et auteurs des guerres, surtout en RDC. » Maître.
Merci. Donc, je remercie les auditeurs, c'est là qui ont posé les questions. Je me dis ceci, ils ont raison. Ils ont raison à ceci. Et d'abord, lorsque nous voyons la question des groupes armés, vous conviendrez avec moi que le dernier ultimatum pour que les M23 reviennent, c'était le 15 décembre. Est-ce qu'ils sont revenus? Sur 1 000 000, il n'y a que 4 qui sont revenus. Je me pose la question si on peut dire qu'il y a un engagement à ce côté-là. Non. Là, il y a un problème.
Au niveau de la sous-région.
Au niveau de la sous-région. Parce qu'il y a les éléments du M23 qui sont encore en Ouganda, qui sont au Rwanda. Et chaque jour, on multiplie. On ne fait que des ultimatums. Et on se raconte qu'à la date issue, rien n'est fait. Et on ne dit pas quoi. Après, ça devient quoi? Personne ne dit rien. Alors que nous avions suivi que au 15 décembre, on ne parlerait plus de ceci, de cela. Et aujourd'hui, on ne nous dit pas est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas.
Ça pêche contre le point 4, l'engagement pris pour la région, renforcer la coopération régionale.
Ne pas tolérer ni fournir assistance à des groupes armés. Ils sont là, ils sont bien. Deuxième chose. Lorsque on essaie de voir la situation, j'ai parlé de la situation de Beni. Pas seulement de Beni, Ituri, et on oublie carrément les situations dans les ULE, où la RLRA fait la loi. C'est aujourd'hui, avec la situation du sud de Lubero, que tout le monde s'aperçoit que les FDLR ont contrôlé autant d'années des entités ou des contrées, parce que cette situation du sud de Lubero a éclaté. Mais qui a parlé? Personne. Mais on faisait quoi qu'il y avait la paix? Ça pose problème. Pour citer sur la question de la réconciliation, nous disons ceci. On ne peut pas parler de la réconciliation tant que l'on continue à entretenir l'impunité. Et vous souviendrez qu'avant cet accord, il y avait l'accord tripartite. Et dans cet accord tripartite, on allait déboucher sur un accord de coopération judiciaire qui allait amener évidemment les États de la région, donc les États de la tripartite plus, d'extrader ou de juger. Et l'accord cadre ici est revenu sur ça. Mais est-ce que vous pouvez me dire qu'un État aille à poursuivre ou à extrader pour que les autres, parce qu'ils sont connus, ils sont documentés, et les crimes commis, on les connaît. Quel est cet État de la région qui a engagé des poursuites contre ces auteurs? Et vous voulez qu'on parle aujourd'hui de la réconciliation? Réconciliation, oui, mais qu'est-ce qu'on fait des victimes, des atrocités? Ça pose problème.
Et donc, en un mot, maître, vraiment, on a l'impression que cet accord n'a pas été appliqué.
Pour nous, évidemment, nous disons que cet accord vient allonger la série des accords, dont même l'accord créatif, l'impact sur la région des Grands Lacs. Parce que 8 ans après, parce que la plupart des matières qui sont prescrites par cet accord sont contenues dans le pacte sur la région des Grands Lacs.
Et visiblement, il n'y a que la RDC qui essaie de faire tant bien que mal des efforts.
Oui, elle fait dans le... Mais il faut savoir que c'est la RDC qui est la plus concernée, parce que les groupes armés sont actifs sur le territoire de la RDC. Merci. Mais ce que nous constatons un déficit de formulation des politiques publiques.
Merci. Monsieur Gérard Ntumba, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. L'accord cadre d'Addis Abeba a eu beaucoup de mal à être appliqué. Vous l'avez tous dit autour de cette table. Comment vous envisagez son avenir maintenant?
Moi, je crois qu'à partir du moment où le président de la République, au nom de tous les Congolais, a signé cet accord pour engager notre cher pays, nous avons l'obligation, chacun en ce qui le concerne, parce que vous savez, quand justement la mise en œuvre des réformes, qui parle des réformes, il y a un volet humain, dans les personnes qui mettent en œuvre les réformes. Et il y a aussi, surtout, le plus important, c'est le volet moyen à mettre en œuvre pour la mise en œuvre des réformes. Parce que toutes les réformes qu'il faut engager, même celles qui sont déjà engagées, qui sont en cours d'exécution, nécessitent des moyens conséquents et parfois des gros moyens que notre gouvernement peine des fois à mettre en place. Moi, je crois que le fait que la loi des finances, je crois, parmi les réformes qui ont été engagées, la RDC va passer à une situation de loi de finances pluriannuelle, ce qui pourrait permettre certains ministères sectoriels qui sont en charge de certaines réformes, de pouvoir planifier au moins sur 3 ans les activités à mettre en œuvre et se forcer à mettre en regard des moyens conséquents et surtout réalistes au regard des difficultés de mobilisation des ressources dans notre pays.
Merci. Et en guise de conclusion. En guise de conclusion, M. Ntumba, qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous?
Voilà. En guise de conclusion, je voudrais d'abord très vite corriger quelques chiffres, parce que parfois les chiffres, c'est effrayant. Sur le retour des M23, Maître Kambalé parle de 4. Je dis, à la date d'aujourd'hui, parmi les ex-M23 qui étaient en Ouganda et au Rwanda, il y en a plus ou moins 200 qui sont rentrés, et pas 4. Et en parlant de réconciliation, il ne faudrait pas limiter la réconciliation aux acteurs politiques. Il faut aussi surtout revenir sur la réconciliation des communautés.
Merci. Merci, M. Ntumba. Professeur Tshibangu, comment vous entrevoyez l'avenir de l'accord cadre?
Oui, écoutez, l'accord cadre, c'est un accord politique international. Ce qui est important pour nous, Alain Irung, c'est d'abord la RDC. Les engagements que le gouvernement congolais a pris ici, ce sont des engagements pour gouverner la RDC, pas pour gouverner la région. Et sur ce point, sans revenir sur ce que nous avons déjà dit, en ce qui concerne la décentralisation, c'est une catastrophe. Tout a été détruit, nous sommes dans un chaos administratif indescriptible aujourd'hui. La décentralisation, c'est nul. Les provinces n'ont aucun moyen. C'est l'anarchie totale là-bas. Ça, c'est un. De deux, il faut revenir sur la question de la démocratisation, de la tolérance, de la réconciliation. Parce que sans démocratie, sans état de droit, il n'y aura pas de développement. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une dérive indescriptible, des atteintes aux droits et libertés des Congolais. J'ai donné des cas emblématiques. Le cas de Martin Fayoul, un député qui est arrêté comme ça, comme un voyou. C'est inadmissible. Donc l'intolérance politique. Je peux citer le cas du président Mondon Simba, qui est un homme politique de premier rang, qui est empêché d'aller voir ses électeurs. Et donc ça, ce sont des atteintes graves à l'état des droits, à la démocratie. Et donc cet objectif qui est prévu dans l'accord cadre n'est pas atteint. Tout, on a fait vraiment un recul de plusieurs années en arrière.
Alors, professeur Gérard Ntumba a évoqué la question des moyens, des gros moyens que le gouvernement peine à mettre à la disposition des structures telles que celles où il œuvre.
Mais il a parfaitement raison, Gérard Ntumba. Écoutez, on a parlé d'un objectif, la réforme des finances publiques. Bon, on nous a parlé de la bancarisation. C'était très bien. Le gouvernement, ça, c'était positif. Ce que le gouvernement a fait là, la bancarisation. Mais aujourd'hui, l'Assemblée nationale nous dit qu'il y a eu des dépenses qui ont été faites même en dehors du budget, presque 1 milliard. Donc,
on fait un pas en avant
et 10 pas en arrière.
En guise de conclusion.
Au total, pour ma conclusion, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? La RDC à l'Erung ne mérite pas d'être gouvernée, d'être administré comme ça se fait aujourd'hui. Merci. Il faut une autre politique dans le pays. Merci. Il faut changer radicalement de méthode de gestion. Merci. Changer radicalement de comportement.
Maître Kamba, les conclusions.
Oui, à conclusion, je peux dire que nous notons seulement que nous craignons que cet accord vienne allonger la liste des accords intervenus dans la région. Mais toutefois, nous avons encore confiance qu'on peut encore sauver quelque chose. Et nous pensons que, évidemment, c'est de s'abstenir à poser des actes attentatoires à certaines libertés, par exemple. De deux, de pouvoir juger, évidemment, les auteurs des actes répréhensibles. et de droit.
Et c'est par là que vous terminez.
De pouvoir libérer la démocratie.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Bonne suite des programmes sur la Radio de la Paix. Au revoir.